Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut à tous et bienvenue pour ce 465e podcast de la galaxie Touchdown Actu, n'exagérons rien. Troisième épisode de cette saison draft 2022 où on va parler aujourd'hui des pass rushers, qui a des mains violentes, qui est adapté à quel type de système, qui sera notre sleeper dans une classe extrêmement fournie. Toutes ces questions qu'on se posera aujourd'hui avec mon camarade Victor Roulier. Salut Victor.
Et salut Grégory, salut à tous. T'as dit 465, je crois que c'est 455, si je ne dis pas de bêtises.
J'avais un doute en plus. 455, my bad alors. D'habitude, je pose toujours la question à Alain Mattei, qui nous fait le plaisir de s'occuper de la technique aujourd'hui, et je le remercie, et j'ai oublié de lui poser la question en amont. Donc merci à toi pour cette rectification. Plaisir encore une fois de te retrouver, Victor, pour cette nouvelle saison. Il y avait eu du coup le Power Ranking avec Jean-Michel il y a deux semaines. Il y avait eu cette première émission consacrée au quarterback avec Jean-Mi et toi, donc la semaine passée. Je suis un peu curieux d'avoir ton avis là-dessus sans faire trop long, mais j'imagine que tu rejoignais globalement le consensus pour dire que cette classe de edge rusher, c'est quand même la plus séduisante du plateau à l'orée de cette campagne 2022.
Oui, complètement. Pour moi, c'est d'ailleurs, quand on a fait le consensus, il y a une chose qui était à peu près claire, c'est que edge était un, cornerback était deux. Après, il y avait des discussions après, mais... C'est quand même difficile d'ignorer une telle cuvée de pass rusher à une position qui est souvent considérée comme la deuxième ou la troisième plus importante selon comment on considère les offensive tackles. Mais en plus, c'est une cuvée profonde, une cuvée talentueuse au premier tour à une position premium. Donc, il y a vraiment tout pour être excité pour cette cuvée.
Oui, tout à fait. Comme tu disais, c'est vrai que 9 fois sur 10, on a des cuvées ou des edge en numéro 1 de la draft, à très rares exceptions des tackles.
Ou des tackles, ouais.
Voilà, là, vu la classe qui se présente, il y a quand même de très fortes chances que ce soit un edge qui soit sélectionné en premier choix de draft. On va donc développer, comme vous l'avez fait la semaine dernière, donc trois niveaux, on va dire, plus ou moins trois catégories, vraiment les principaux, ceux qu'on présente déjà comme les cadors, et puis éventuellement ceux qui sont légèrement en dessous, parce qu'on va le dire tout de suite, il y a beaucoup de edge rushers qui peuvent prétendre au premier tour. Je m'avance peut-être un peu si je dis qu'il y a une écrasante majorité de joueurs qui pourraient prétendre au premier tour dans la liste qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc on commence dès à présent avec le tier 1 pressenti de cette draft 2022.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et on commence justement par celui qui est présenté par beaucoup, Victor, comme le numéro 1 quasi assuré en avril prochain. Kayvon Thibodeau, defensive end d'Oregon. Je le vois un peu dodeliner de la tête, genre je ne suis pas tout à fait d'accord. il se peut que tu ne sois pas tout seul. Mais bon, en tout cas, on va forcément parler de ce qui est un peu le phénomène physique de cette draft, ce qu'on peut partir à Kayvon Thibodeau, des problèmes de blessure au début de la saison 2021, mais on voit quand même toujours son impact au cours de cette saison. C'était un lycéen star lors de son arrivée du côté d'Oregon. Ça restera a priori un universitaire star lorsque viendra la sélection lors de la draft.
Oui, c'est vrai que je dodinais de la tête au sens où je n'ai pas l'impression que ça soit comme Jadeveon Clowney à l'époque. Sûr que ce soit lui numéro un. Je pense qu'il y a un autre candidat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le favori. C'est des dimensions physiques, j'ai envie de dire, parfaites hein, pour un pass rusher de 4-3, principalement. Mm-hmm. Il est rapide, il est explosif, il est polyvalent, il est agressif. J'ai trouvé cette année qu'il était très concentré. Peut-être plus que l'année dernière, ce côté vraiment, il est investi à chaque snap. Et ça, c'est plutôt... en tout cas, j'ai trouvé ça bien. Après, moi, il y a quand même quelque chose qui me bloque toujours, et j'ai vérifié sur les stats parce que je ne voulais pas que ça soit un biais, mais il a quand même 19% de plaquages manqués en carrière. Et je trouve que c'est encore quand même, et il y en a un autre qui partage ça dans le tien, mais c'est encore son péché mignon. Il loupe trop de plaquages pour être parfait, en fait. C'est ça qui me bloque un peu. Et puis surtout, vous ne le faites pas jouer en coverage. Mais après tout, un pass rusher de 4-3, c'est pas tellement, tu ne lui demandes pas tellement de couvrir au terrain. Donc, pour ce qui est du pass rush pur et aussi de la défense de course, parce qu'il a vraiment progressé cette année sur ce point de vue-là, je comprends qu'on puisse en faire un numéro 1, parce que c'est vrai que c'est un joueur au talent. Pour moi, je le compare un peu à Jadeveon Clowney en un peu plus petit, puisque je pense que Jadeveon Clowney était quand même plus massif, mais c'est un peu le même type de joueur. Donc, peut-être que finalement, en NFL, il sera plus un run stopper qu'un vrai pass rusher qui empile des sacs. Mais c'est sûr que c'est un phénomène qui mérite d'être considéré pour le numéro 1.
Oui, c'est ça. Alors, encore une fois, je rejoins globalement tout ce que tu as dit. C'est vrai que moi, ce qui me perturbe un petit peu avec Kevin Thibodeau, c'est que ce sera un athlète hors norme. Et je pense que, en tout cas, il y aura peut-être d'autres candidats, mais je ne serais absolument pas surpris si c'était vraiment la star du prochain combine du côté d'Indianapolis. Donc, ça, à mon avis, en ce qui concerne. Pour ce qui est d'affoler les compteurs, je lui fais confiance. A priori, je pense que c'est un joueur qui va faire tourner les têtes. Tu l'as dit, globalement, en termes de production, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Moi, c'est vrai que l'exemple de Jadeveon Clowney est un très bon exemple parce qu'encore une fois, on voit que c'est vraiment un phénomène, un joueur qui sait faire énormément de choses. Et je pense d'ailleurs que son coordinateur Oregon lui fait peut-être faire un petit peu trop de choses. Tu parlais de cette volonté de le faire notamment jouer sur de la couverture. Je ne sais pas si ça le sert énormément parce que ça lui fait faire énormément de choses. Mais pour reprendre le fameux dicton, on essaie de lui faire faire beaucoup de choses bien plutôt que de lui faire faire une ou deux choses vraiment de manière excellente. Et c'est un peu ce qui est problématique dans ce sens-là. Je ne sais pas dans quelle mesure Thibodeau est remis de sa blessure. C'est pour ça que j'en parlais en introduction. Je ne l'ai pas trouvé aussi déterminé sur chaque snap. C'est peut-être le petit bémol que j'émettrais par rapport à ce que tu disais. On a l'impression qu'il se repose beaucoup sur ses acquis sur certains moments, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que sa marge de progression est négligeable et que, en étant utilisé peut-être de manière un peu moins fantaisiste entre guillemets, ou en tout cas à pas vouloir se dire j'ai un phénomène donc je vais vraiment en faire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi en l'occurrence, ça peut en effet être un joueur extrêmement intéressant. Donc voilà, je pense que son statut de potentiel numéro 1 en tout cas n'est pas galvaudé, mais ça restera à confirmer. Si tu me permets d'enchaîner, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur Thibodeau, mais c'est peut-être être mis en parallèle avec le deuxième joueur dont on va parler. Je ne sais pas si c'est lui ton autre potentiel candidat en numéro 1. En tout cas, c'est mon cas. Aidan Hutchinson, edge rusher de Michigan, qui lui, en l'occurrence, en termes de sacs cette saison, est peut-être, je crois, le plus productif de tous ceux qu'on va aborder aujourd'hui. Je me rappelle de prestations à au moins 3-4 sacs par match sur certains rendez-vous. Donc, lui aussi, on sait qu'il y a un petit passif de blessure qui remonte légèrement, mais qui va être surveillé par pas mal de scouts. Par contre, là, si on cherche vraiment un pass rusher vraiment complet, Hutchinson, ça fait partie vraiment de l'élite. Ça peut être un profil à la Nick Bosa, par exemple.
Oui, mais c'est exactement la comparaison que j'avais mis. Nick Bosa, c'est ça pour moi. Ça va être lui, la vraie star du combine, si tu me permets. Bon, je pense que les deux peuvent l'être. Hein, mais en soi, vous avez aimé Quitty Pay, vous aimerez Aidan Hutchinson, hein, ils sont de la même école. C'est un monstre physique, comme l'était Pay aussi. Mais je trouve que c'est un joueur encore plus impressionnant. Il est mobile. Il défend la course comme la passe sans aucun problème. Il n'est pas peut-être explosif comme peut l'être un Kevin Thibodeau. C'est moins spectaculaire, mais c'est terriblement efficace. C'est-à-dire, sur chaque action, il va être là. Il a été un peu blessé l'année dernière, donc il est revenu. C'est un joueur mature, peut-être un peu, du coup, un peu plus expérimenté. Et on voit que dans sa tête, c'est très clair, le plan de jeu, il l'applique. C'est un leader. Il aide beaucoup les autres joueurs de la défense. On va en parler d'un deuxième pass rusher un peu plus tard. Mais c'est un joueur qui rend tout le monde meilleur parce qu'il sait tout faire bien, même très bien. Et Là, je trouve que pour le coup, il est un peu mieux coaché que Thibodeau, parce que tu disais, Thibodeau, parfois, on le perd un peu dans un match parce qu'on lui demande de faire 10 000 trucs. Lui, au moins, je veux dire, on sait ce qu'il sait faire et les coachs, du coup, l'utilisent pour ça. C'est-à-dire, globalement, la ligne de scrimmage, c'est le maximum où tu vas aller. Le but, c'est d'enfoncer 2 yards, 3 yards, 4 yards. Et là, si tu trouves un quarterback ou un running back sur ton chemin, c'est plutôt pas mal. Donc, j'aime bien ce joueur. Je trouve que... Il y a un potentiel post-combine à le voir numéro 1.
Moi, j'ai du mal à lui voir des points faibles, en vrai. Si on met de côté sa blessure, encore une fois, avec la potentielle question de la durabilité, j'ai du mal vraiment à voir de vrais points faibles. On voit qu'il a des... On voit que même avec la même module, il est capable d'avoir des mains très actives. On l'a vu battre notamment des passes de quarterback parce que justement, il arrivait à être constamment en mouvement. Malgré la bataille qu'il menait avec son tackle, j'ai vraiment du mal à lui trouver un secteur où je lui dis, alors, si on veut caricaturer, on peut dire la couverture, mais on l'a quasiment jamais vu dans ce secteur-là, donc forcément, voilà, ce sera peut-être pas un outside linebacker au niveau supérieur, mais après, je te rejoins totalement. Pour le reste, il y a beaucoup de cases qui peuvent être cochées. Ouais.
Oui, bah, globalement, je te dis, si on compare à Thibodeau, éventuellement l'explosivité, mais je suis d'accord avec toi que c'est un joueur ultra complet, donc il n'y a pas beaucoup de défauts.
Le troisième joueur de notre tier 1, ce sera un autre joueur de la Big Ten. Il y en a quelques-uns, 4 en l'occurrence sur les 9 qu'on va aborder aujourd'hui. George Karlaftis, defensive end de Purdue. Je parlais de Chinson, où vous pouvez retrouver d'ailleurs la fiche « Si j'étais un espoir » sur le site Touchdown Actu rédigé par Jean-Michel Boujard. C'est également le cas de George Karlaftis, profil extrêmement intriguant, hein, joueur grec. Un peu peut-être le Giannis Antetokounmpo de la NFL, n'exagérons rien. Mais voilà, en tout cas, phénomène européen arrivé du côté de Purdue, lui aussi qui était très très coté à sa sortie de lycée et qui montre du côté des Boilermakers tout son potentiel. Alors très clairement, on a affaire à un joueur puissant et athlétique. Qu'est-ce que tu en penses de George Karlaftis et jusqu'où tu le vois éventuellement aller?
Oui, George Karlaftis, comme tu dis, grec, ce qui fait potentiellement 2 joueurs nés en Grèce dans le top 10, hein, puisque Kyle Hamilton est né en Grèce aussi. Donc,
ah oui.
Non, c'est un joueur qui est... Alors, pour le coup, il est beaucoup plus gros que les deux autres, parce qu'il fait la taille de Thibodeau, c'est-à-dire, même un peu plus bas, il fait 1m93, mais il fait 124 kilos. Donc c'est quand même assez gros. Il est puissant. Il est endurant, il est... explosif. Et
c'est un tracteur, le bordel.
Oui, et en plus, c'est un tracteur qui peut aller à l'intérieur ou à l'extérieur. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, le problème d'un tracteur, enfin, le problème, on parle d'un potentiel top 10, hein, donc toujours à relativiser, hein, mais c'est que du coup, quand tu es un tracteur, tu n'as pas forcément une mobilité latérale incroyable. Il a tendance, lui aussi, à manquer un petit peu des plaquages. Donc en fait, c'est un joueur que je trouve génial pour enfoncer vraiment la ligne, donc que ça soit en 3 techniques, en 5 techniques, éventuellement.
C'est la 7. Question que j'allais te poser parce que je sais pas, je vais pas souvenir d'avoir vu autant que ça en 5 tech, mais il a très clairement le potentiel a priori pour
le faire. Ouais. Il a le potentiel pour jouer en 3,
sur des phases de jeu, sans en être un régulier, il y a des changements de schéma qui devraient pas lui poser problème.
En 3e tentative. Tu le mets en 3 techs, 5 techs, ça ne me choque pas du tout. Peut-être pas justement sur les premières tentatives, parce que moi, mon vrai problème, pour moi, c'est la défense de course. Donc, il y a un potentiel enfonceur de ligne, il y a un potentiel saqueur fou, mais j'ai un peu l'impression que tu auras toujours cette petite limite, et c'est pour ça que je mets un peu derrière les deux autres, parce que lui, je lui trouve une vraie limite. C'est que le jour où il faut aller traverser le terrain pour aller chercher le running back, je pense que le temps qui bouge latéralement, le running back est déjà passé. Donc,
oui, il y a peut-être une poursuite à perfectionner, et tu le disais, oui, j'allais dire une séance du plaquage. Moi. De toute façon, je t'ai même trouvé gentil sur le plaquage, parce que je crois que c'est le pire de ceux qu'on va aborder dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'en effet…
Il y a 1% de différence avec Thibodeau, hein, et on en parle pour lui et pas pour Thibodeau.
Je sais pas. Ça va plus marquer en tout cas sur les vidéos que je voyais de Karlaftis. Mais tu sens qu'il est beaucoup, il est très engagé sur son duel et que le côté un petit peu réactivité, genre attention, le ballon est par là. ça peut avoir tendance à être un peu oublié. Je n'avais pas donné les stats tout à l'heure, juste pour Hutchinson, parce que je parlais de son nombre de sacs. Il y avait 9 sacs et 11 plaquages et demi pour perte. Karlaftis, c'est déjà un poil moins, 3 sacs et demi et 9 plaquages pour perte à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc voilà, il y a une production un peu moindre. Après, il y a peut-être moins de force de frappe du côté de Purdue. Il a peut-être plus de raisons d'être un peu en double team en l'occurrence. Mais voilà, on voit malgré tout qu'il a un impact, même si les stats ne sont pas aussi folles que son camarade de Michigan. On peut passer au tiers 2, mon petit Victor ?
Allons-y.
Allons-y, on va rester du côté de Michigan.
What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go!
Du côté de Michigan et de la Big Ten en l'occurrence. Troisième joueur donc de la Big Ten abordé dans ce tiers 2. Profil extrêmement énigmatique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, petit point d'interrogation autour de David Ojebo. Sensation junior de Michigan cette année, joueur qui a vraiment explosé sur le tard, on dira, du côté de Michigan. Parce que de toute façon, l'année dernière, c'était un match joué. 39,
je crois.
Ouais, c'est ça à peine. Il y avait vraiment pas grand-chose. Un match joué, je crois qu'il avait redshorté en 2019. Donc vraiment, l'essentiel du contenu qu'on a de sa part du côté d'Ann Arbor, c'est en 2021. Et quel contenu, puisqu'en l'occurrence, voilà, c'est moi qui m'étais planté sur les stats. Du coup, Hutchinson est à 9 sacs, Ojebo est à 10. Donc il y a 10 sacs, 5 fumbles forcés. Joueur notamment hyper redoutable sur des troisièmes tentatives. La question forcément qu'on va se poser, Victor, c'est est-ce qu'on a affaire vraiment à un phénomène qui explose ou est-ce que son entourage joue pour beaucoup ?
Ben écoute, moi, je ne trahis pas de secret. On en a parlé avant. Moi, j'espère qu'il va retourner en université. Ça ne se fait pas de dire ça dans un podcast draft, mais parce qu'au moins, on saura beaucoup plus ce qu'il vaut. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai que athlétiquement, c'est un phénomène. Ça, il n'y a pas de problème. Et on sent quand même que voilà, c'est un peu brut. C'est vrai que tu vois qu'il n'y a que 30 snaps en NCAA avant cette saison parce que parfois les mains traînent un peu partout, parfois il commence à faire un mouvement latéral, tu te demandes où il va et ce qu'il a vu. Donc c'est un peu, il a encore un peu le côté chien fou qui a besoin d'être canalisé. Mais la réalité, c'est que c'est un potentiel athlétique incroyable qui est capable de marcher sur tout le monde parce que c'est incroyable d'être aussi gros entre guillemets et aussi rapide.
Il est une bonne panoplie de move en plus, hein. Il est capable de vraiment contrer efficacement ses vis-à-vis. Ouais.
Complètement. Quand il se place bien, il peut contrer à peu près tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, voilà, il y a toujours ce truc de est-ce qu'il performe parce que bah, de l'autre côté, il y a deux joueurs sur Hutchinson. Donc, c'est vrai que ça te libère un peu l'espace. Hein, ou est-ce qu'il performe parce que vraiment, il y a un phénomène. Je pense qu'on sait que la NFL a tendance à être rassurée par le potentiel athlétique des joueurs. Donc, même s'il se présentait aujourd'hui, il y a quelqu'un qui prendrait le risque de prendre au premier tour. Et si ça se trouve… Ça sera peut-être le plus productif de tous. Peut-être pas immédiatement, mais sur le long terme. Mais ça reste un gros risque. Parce qu'en effet, on n'en a pas vu beaucoup. Et ce qu'on a vu, c'est un joueur qui était laissé tout seul parce que tout le monde s'occupe de Hutchinson.
L'avantage avec Ojebo, si on commence à parler du côté un peu système, c'est que dans le lot des pass rushers dont on va parler, c'est un de ceux qui a été le plus souvent utilisé sur de la couverture. On est vraiment sur du profil. Autant Hutchinson, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment de la D-line quasi exclusive. Ojebo, c'était du D-end, outside linebacker, qu'on ne va pas hésiter à faire décrocher. Et encore une fois, il a ses qualités athlétiques pour le faire. Je crois qu'il a 3 passes défendues depuis le début de l'année sur la trentaine de snaps qu'il a joué en couverture. Donc, il y a là aussi une certaine polyvalence qui peut jouer en sa faveur et qui contribue en effet dans la NFL moderne à en faire un potentiel premier tour en puissance. Après, je te rejoins sur le côté vraiment… interrogation en tout cas sur ce qui peut valoir à l'instant T et sur le bienfait potentiel d'une année supplémentaire en universitaire. Donc ça va forcément être quelque chose à prendre en considération de sa part en tout cas d'ici la fin des échéances 2021. Oui.
Et juste pour rajouter, tu as raison de préciser que finalement, quand je regarde un peu la liste de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on va faire, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui peuvent jouer en 3-4, je trouve. Enfin, ou que je vois en tout cas comme étant des joueurs faits pour le 3-4. Donc, c'est vrai que ça peut aussi intéresser des équipes parce que c'est un profil qui est un peu plus rare.
Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Dernier joueur de la Big Ten qu'on va aborder dans ce podcast et dans cette deuxième catégorie, Arnold Ebiketie, defensive end de Penn State, 9 sacs et demi depuis le début de la saison, 17 plaquages pour perte. Alors là, on est sur du profil un peu plus trapu, mais extrêmement redoutable dans la défense d'ailleurs des Nittany Lions qui a vraiment été transfiguré cette saison. Je ne sais pas quelle proportion on peut lui donner dans cette réussite de la défense de PSU, mais en tout cas, c'est un joueur qui a vraiment contribué, qui a vraiment fait augmenter sa cote. On rappelle que c'est un joueur qui arrivait Temple pendant l'intersaison, notamment pour remplacer Odafe Owe et Shaka Tony qui ont été draftés l'année dernière. Et concrètement, Penn State n'a pas du tout perdu au change.
Oui, bah, Penn State, alors j'allais dire, ils ont perdu Micah Parsons, mais c'était un peu différent aussi, du coup. Parce que l'impact,
oui, l'année dernière, il avait déjà un peu perdu.
L'année dernière, il avait déjà très peu d'impact, mais vraiment. Mais oui, c'est sûr que c'est une surprise. Enfin, je veux dire, en 3 ans à Temple, il a fait 6 sacs. Là, il en fait 9,5. Bah, c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe avec lui, parce qu'on avait plutôt tendance à regarder au début de la saison les linebackers, parce que c'est ceux qui étaient les plus cotés chez Penn State, enfin, en tout cas pour moi. Et puis finalement, tu regardes des matchs et tu dis, mais c'est qui ce mec? C'est incroyable. Chaque action, il est là. Chaque action, il est décisif. Vraiment, il est rapide, il est explosif. Et surtout, j'ai l'impression qu'au milieu du quatrième quart, il a la même fraîcheur physique qu'au début du premier. Tu as l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Et c'est assez hallucinant.
Ce que je trouve dingue, c'est qu'il est presque plus dangereux sur l'intérieur que sur l'extérieur de la ligne. Là aussi, en termes de rencontre, en termes de move, il est capable malgré tout de se mettre dans des situations où il arrive, quoi qu'il arrive, à mettre un minimum de pression au quarterback. À défaut, si ce n'est pas de l'obliger à lancer plus rapidement, c'est au moins l'obliger à scrambler et laisser potentiellement du temps à ses collègues de rajouter un peu plus de pression sur lui.
Non, mais totalement, totalement. J'ai l'impression qu'il y a une polyvalence qui est encore peut-être pas sous-exploitée, parce qu'elle est bien exploitée, mais qu'on ne se rend peut-être pas encore assez compte de tout ce qu'il est capable de faire. Parce que on va être honnête, hein, Temple, ce n'est pas particulièrement l'université que j'ai le plus regardé ces 2 dernières saisons. Hein, donc, clairement, moi, je me base surtout sur les vidéos de cette année. Donc, voilà. Après, je trouvais léger visuellement. En fait, il fait le poids de Thibodeau, apparemment. Donc, à voir, il serait plus petit que Thibodeau et plus lourd. Donc, je demande à voir. Parce que
ouais,
là,
j'essaie de voir. 6'4, ça fait quoi? Ça fait un bon 1m93, à peu près.
Il est censé faire 1m92 et 114 kilos. Mais bon, les mesures de. On attendra le combine. Parce que...
Oui, ben, après, moi, je t'avoue, quand je le vois, peut-être par rapport au collègue dont on va parler juste après. C'est pas un profil aussi trapu que Carl Hafti, c'est pas un profil aussi longiligne que d'autres. Voilà, d'un point de vue poids, vraiment pour un defensive end 43, en l'occurrence, ça fait largement l'affaire. Et en effet, on le répète, pour un profil qui reste relativement complet. Sur le jeu au sol, il a quand même. Alors, moi, j'ai vu quelques critiques à son sujet sur le run stop où il pouvait se faire embarquer, notamment sur des phases un peu plus passives. Franchement, ce n'est pas ce qui m'a marqué sur les vidéos. Hein. Vraiment.
Ouais, alors j'allais dire, je l'ai lu.
Oui.
Mais je ne l'ai pas vu.
Moi non plus.
Donc, je ne sais pas, parfois, tu as l'impression qu'ils reprennent un peu tous ces arguments des autres. Mm-hmm. Donc, c'est un truc qui traîne un peu, le run stop, etc. Mais alors, moi, j'attends qu'on me montre vraiment
oui,
des
c'est
matchs
ça. S'il y a un match en particulier où il a été en difficulté, je peux l'entendre, mais ouais, en tout cas, ça m'a clairement pas sauté aux yeux non, sur les oppositions qu'on a pu voir. Et pourtant, il a croisé quand même quelques bons programmes offensifs, Ohio State, Michigan. Enfin, je veux dire, au niveau du jeu au sol, cette année, voilà, il y avait quand même largement de quoi potentiellement le mettre en difficulté. Mais je ne l'ai pas senti, je l'ai pas senti vraiment comme étant le maillon faible dans ce domaine-là. Donc, ça va être à voir, mais encore une fois, on parle quand même d'un profil assez complet. Processus draft, ça peut être quand même quelque chose à suivre parce qu'encore une fois, s'il marque des points durant ce processus, il peut encore grimper. On parle encore potentiellement d'un premier tour de draft. Hein, là,
De toute façon, les 8 voilà. Sont potentiellement des premiers tours de draft.
Oui, ouais, encore une fois, c'est pour le rappeler. Vraiment, là, on a vraiment du lourd à aborder au cours de cette émission. Le troisième homme, dans cette deuxième catégorie, c'est donc le defensive end de South Carolina, Kingsley Enagbare. Bon, on parlait de Gideon Clowney tout à l'heure, hein. Encore un pass rusher qui sort de South Carolina avec une belle cote également. Et là, encore une fois, pour le coup, je parlais de profil physique assez atypique. Kingsley Nagbaré, c'est quand même quelque chose. Profil extrêmement longiligne, mais très très difficile à stopper au contact. En tout cas, c'est un joueur quasiment actif de manière permanente.
C'est ça. Il est athlétique et mobile. Et puis, mine de rien, il est assez puissant au niveau des mains. C'est vrai que visuellement, on n'attend peut-être pas forcément ça de lui. Et il joue plus gros qu'il n'est, si je peux me permettre.
Il a un peu un profil Grégory Rousseau, si on reprend un peu l'idée, la manière dont il est placé. Le côté un peu joueur assez grand qu'on a du mal à stopper de par sa puissance.
Oui. Je n'y avais pas forcément pensé, mais c'est pas faux dans l'utilisation. C'est assez cohérent. Après, je ne pense pas que ça soit un monstre physique comme pouvait l'être Grégory Rousseau, enfin, en tout cas, en université, parce que après, au Pro Day, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais moi, ce qui me dérange un peu avec notre cher ami de South Carolina, c'est que lui, pour le coup, tu vois, j'ai l'impression qu'il joue un snap sur deux. Alors, j'exagère un petit peu, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il pourrait en faire tellement plus, en fait. Et je sais, j'arrive pas à me rendre compte si c'est juste qu'il est limité en endurance ou en... Ou juste qu'il n'a pas de deuxième mouvement quand il est stoppé sur le premier. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le type de joueur. Tu l'emmènes en NFL dans une équipe bien coachée, qui l'entraîne pendant un an, qui l'apprend à se déplacer et tout. Il peut devenir un vrai phénomène. À l'inverse, mal coaché, il peut vite se perdre, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un des joueurs, j'ai le plus de mal à avoir un avis tranché sur lui.
4 sacs et demi, pardon, et 7 plaquages pour perte cette saison dans la défense de South Carolina, pardon, qui est resté quand même le point fort du programme tout au long de l'année, hein. South Carolina qui termine pas trop mal d'ailleurs, et Nagbaré a un rôle non négligeable là-dedans. Mais c'est vrai que ce côté un petit peu en dilettante, je l'ai peut-être moins vu que toi, mais en l'occurrence, oui, j'ai pas de mal à l'entendre. Il me paraît aussi assez complet. Là, pour le coup, sur le run stop, j'ai trouvé relativement actif. C'est un des meilleurs plaqueurs de son équipe. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais en tout cas, on voit qu'il peut avoir en tout cas cette réactivité, là encore, même en étant au duel avec son vis-à-vis. Donc voilà, profil extrêmement intriguant. Tu lui vois une bonne marge de progression, en l'occurrence?
Je pense que bien coaché, il devient un titulaire solide. Par contre, on va dire que des 6, là, c'est celui où je lui vois le plafond le moins haut. Pour le coup.
D'accord.
Je pense qu'à un moment, ça sera limité. Alors que les 5 autres, tu me dis, ça devient des joueurs à 10 sacs la saison. Je te dis, oui, c'est une possibilité.
Voilà. Et j'ai obligé Victor à aller boire un coup, parce que j'ai dit en l'occurrence. On a terminé avec la deuxième catégorie. On termine avec les deux derniers joueurs du plateau et notre sleeper. C'est parti.
Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
Et on va commencer par un joueur sorti du Group of Five. Un peu la belle histoire, et je sais qu'elle t'est chère, Victor, le programme de Cincinnati qui ne cesse de déjouer les pronostics pour l'instant depuis le début de la saison. À l'image de son pass rusher, Myjai Sanders, qui était pressenti hein, pour s'inscrire à la draft dès la saison dernière, qui a pris la décision... contrairement à beaucoup d'autres joueurs des Bearcats qui étaient partis à la draft, de rempiler du côté de l'Ohio. Sa production n'est pas dingue cette année, 2 sacs et 6 plaquages pour perte. C'est pas pour ça que son impact est négligeable dans la défense de Cincinnati. Alors moi, je vais te dire honnêtement, je suis curieux d'avoir ton avis sur ce joueur-là. Je crois savoir que c'est un joueur que tu aimes relativement bien. Maintenant, il y a des points que je trouve extrêmement intéressants et d'autres qui m'inquiètent beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je pense que j'ai aimé beaucoup plus cette année dernière que cette année. globalement, je ne cesse d'être plus haut sur la plupart des joueurs de Cincinnati, à tous les niveaux, hein, sur des top 15 comme Gardner.
On passe d'ailleurs un bonjour à ton super pote, Darian Beavers.
Voilà, mais non, mais typiquement, tu vois, qui est nominé pour être meilleur linebacker de la saison.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que Mijai Sanders, alors on parlait de plaquages manqués, il y en a un paquet hein, cette année aussi pour lui. Mm. Bah, surtout le début de la saison, c'était vraiment compliqué. C'est un joueur qui m'a déçu globalement parce que finalement, à part son match à 3 sacks contre Tulane, il est un peu inoffensif la plupart de la saison. Alors, tu vois, on disait que Gnabry, il paraît plus gros que son poids. Lui, il paraît plus petit que sa taille, j'ai envie de dire, parce qu'il s'est fait bouffer physiquement trop souvent, je trouve, cette année, dans un calendrier qui était pourtant pas dingue. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi il a cette saison en demi-teinte. Alors, il faut avouer qu'il a souvent 2 joueurs sur le dos. Ça, c'est vrai, parce que ça reste quand même la menace principale de cette équipe. Il a la vitesse, il a les mouvements, il a les mains. Mais voilà, ça manque de puissance, ça manque de volume physique. On a l'impression que… pourtant, il y a quand même un corps qui est censé être suffisant, mais il y a du mal à le faire marcher. Donc, l'année dernière, je t'aurais dit, pour moi, c'était vraiment ce type de joueur que j'aimais beaucoup, que je voyais craquer vraiment le premier tour. À l'image de notre ami qui est parti aux Giants, son nom m'échappe.
Aziz Ojulari.
Voilà. Donc, ce type de joueur que je voyais très hype partir fin de premier tour, début de second tour. Là, je pense que Sanders, sa fin de saison va être décisive pour lui. Parce qu'il a une chance, c'est que l'hypothèse selon laquelle Cincinnati joue les playoffs commence à être de plus en plus possible. Et il va avoir du coup l'occasion en antenne nationale de montrer qu'il est toujours le joueur redoutable qu'il nous avait montré l'année dernière. Donc, il va encore avoir l'occasion de se montrer, mais il faut qu'il fasse plus. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'il a montré cette saison, c'est clairement pas suffisant.
Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'embête un petit peu avec Mijai Sanders, c'est que déjà, on parlait de la question de la marge de progression et de la polyvalence. Je pense que c'est déjà des cases qui vont être difficilement cochables parce que j'ai l'impression qu'il est déjà arrivé relativement à un certain seuil et que, hormis la position de defensive end 43 traditionnelle, je n'ai pas dans l'idée qu'on puisse lui faire faire grand-chose. C'est un des profils que je vois le plus comme un pass rusher occasionnel. Si on pousse la caricature un peu plus loin, tu parlais de ses difficultés, notamment en termes de plaquage sur run stop. Hein. C'est clairement pas son exercice de prédilection. Et même au-delà sur la question du pass rush, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est un joueur qui se repose beaucoup sur son premier pas. C'est un des joueurs les plus réactifs au snap. Ça, on ne peut pas lui retirer sur tout le lot de joueurs dont on parle aujourd'hui. Par contre, 9 pénalités depuis le début de la saison quand même. 9 pénalités, ça fait beaucoup quand même. Tu dis, en plus, pour un joueur qui n'est pas non plus dans une conférence avec des vis-à-vis. Alors, je sais qu'ils ont joué par exemple Notre-Dame, mais pas dans une période où Notre-Dame avait une ligne offensive encore hyper huilée. Ils n'ont pas affronté que des cadors en termes de ligne offensive. Et le fait de voir que Sanders s'est un peu obligé de, entre guillemets, compenser ça et se retrouver systématiquement pris la main dans le pot de confiture à cause de ça. Enfin voilà, c'est le type de joueur qui peut être un vrai problème en NFL sur des troisièmes et courtes. Où les coordinateurs vont se faire un plaisir de se dire, tiens, on va le tester pour voir si éventuellement il va pas flancher. Quoi. Alors qu'à côté de ça, encore une fois, c'est un joueur vraiment que je trouve besogneux, un vrai leader dans cette défense de Cincinnati, un vrai leader vocal. Et voilà, je pense que dans un vestiaire et dans une défense, c'est un joueur qui peut faire énormément de bien. Maintenant, est-ce que ça peut être plus qu'un joueur titulaire slash de rotation pass rusher? C'est encore difficile à évaluer.
Oui, et puis il y a quand même des beaux pass rushers qui sont en train de monter. Alors, on ne pouvait pas parler de tout le monde. Donc, par exemple, on a cuté Jermaine Johnson. On a aussi enlevé Adam Anderson pour des raisons.
Oui, on n'a pas cité Adam. Voilà, oui.
Voilà, Adam Anderson, pour l'instant, on va attendre de voir comment évolue l'extra sportif.
Oui, je crois qu'il y a mieux à évaluer que sa situation sportive.
Oui, actuellement, il a d'autres problèmes. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que, attention, parce que Sanders, il peut vite chuter pour le coup.
Oui, très clairement, ça peut être un joueur dans cette passe. Il peut se retrouver fin premier tour comme il peut se retrouver troisième, quatrième, hein, en exagérant un petit peu. Mais...
Oui, non, c'est même pas exagéré. Je pense que ça peut être ce type de joueur qui descend vite.
Alors, parlant de joueurs dont le stock, pour reprendre l'expression anglaise, a quelque peu régressé en 2021, parlons de Drake Jackson. Pass rusher de USC. J'essaye de retrouver ses stats cette saison. Alors, c'est 5 sacs et 7 plaquages pour perte. Ça s'est un peu amélioré par rapport à un début de saison extrêmement délicat d'Andrick Jackson. Voilà, vous ne le voyez pas, mais autant en début d'émission, il dodinait de la tête, autant là, il m'a l'air vraiment totalement en phase avec ce que je lui dis. Drake Jackson, profil athlétique, polyvalent, mais extrêmement déroutant, j'ai envie de dire.
Pourquoi déroutant ? Il est très bien, mon Drake Jackson. Il sera très bien en fin de premier tour. Apparemment, je l'aime plus que toi.
Oui. Alors, c'est un joueur que j'adorais, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Alors, je ne sais pas là aussi si c'est le syndrome un peu Thibodeau, où il a fait faire pas mal de choses dans cette défense de USC, qui clairement, pour le coup, n'est pas du tout dominante. Voilà, on sait que pour les experts college football, ils savent que USC a traversé un petit peu cette saison en fantôme sans jamais vraiment y croire, avec des prestations extrêmement irrégulières, notamment en défense. Donc, c'est vrai que Drake Jackson n'avait pas non plus un casting extraordinaire autour de lui. Maintenant, c'est vrai que là, en termes de sur l'ensemble d'un match, et j'ai du mal à le voir aussi dominant. Après, bon, voilà, c'est pas non plus une machine, mais ouais, il y a son début de saison qui m'a beaucoup perturbé, où j'ai du mal à savoir pourquoi concrètement il est vraiment passé à côté. Et ça, c'est forcément un paramètre à prendre en compte en NFL. Après, voilà, moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un joueur qui sait faire malgré tout pas mal de choses. Et qui est vraiment, là aussi, on va se répéter, mais oui, on a affaire à un phénomène athlétique.
Complètement. On a affaire à un phénomène athlétique qui est assez polyvalent, pour le coup. Moi, je l'imagine autant en 4-3 qu'en 3-4.
Voire peut-être même plus en 3-4, je pense.
Plus en 3-4, oui. Ouais. Je pense que c'est le joueur qui a montré le plus en couverture. Et du coup, en 3-4, pour moi, il serait dans une position idéale. J'ai la chance de me lever tôt dimanche, qu'en général, j'essaye de voir UCLA, et du coup, je regarde beaucoup de Pac-12.
T'en as de la chance.
Oui, vraiment, je suis un homme comblé.
Tu as donc vu la défaite de Drake Jackson contre UCLA, 62 à 33, je ne me rappelle plus du score. Mais...
C'est, ouais, 62, ouais. Ouais, bah, écoute, en lançant deux interceptions sur les deux premières actions, parce oui, que, sinon c'est trop facile.
Bon, pardon pour cette parenthèse.
Non, mais USC, le problème, c'est que tu l'as dit, en fait, je pense que cette équipe est tellement mal coachée que est-ce que vraiment on peut tenir pour responsable Drake Jackson du mauvais début de saison ? C'est-à-dire qu'en fait, on avait vraiment l'impression. L'année dernière, on avait un mec focus qui savait ce qu'il devait faire, etc. Et cette année, on avait l'impression qu'il était perdu parce que limite, il ne comprenait pas les consignes. Et moi, ça m'avait choqué. C'était contre Oregon State où tu le vois se retourner vers le banc et tu as presque l'impression qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, moi, j'ai tendance à l'exonérer peut-être trop pour ce mauvais début de saison parce que justement, j'ai trouvé que l'équipe de USC en général avait l'air un peu perdue. Et j'ai tendance à me réfugier dans des choses qui sont en effet ses qualités athlétiques, sa puissance, mine de rien la saison d'avant où il a montré des choses, et sa polyvalence. Et je me dis que, encore une fois, un peu comme j'ai dit pour Ojabo, une défense 3-4 qui a besoin de pass rush, ben je me dis qu'elle va peut-être se dire en fin de premier tour, oui, Drake Jackson, c'est un risque que j'ai envie de prendre. Et je pense que le fait qu'il ne soit pas tant que ça dans le même profil physique et de jeu que lui, va lui servir. Si c'était un 4-3, peut-être qu'il serait au deuxième tour. Mais j'ai tendance à dire que pour lui aussi, le combine, le pro day, toutes ces choses-là vont être super importantes parce que c'est là où il doit dire « Ok, les gars, ça n'a pas été une saison extraordinaire, mais regardez ce que je suis, regardez ce que je suis capable de faire, regardez comment je vais couvrir tous vos copains au combine, regardez mais mon 3 cônes, etc., tous ces exercices-là qui vont montrer à quel point je suis athlétique et puissant. Je pense qu'il faut vraiment qu'il se serve du combine. Avec un bon combine, il va au premier tour.
Oui, non, c'est sûr. Après, très franchement, là, sur ces premiers podcasts de la saison, on s'appuie avant tout sur de la production avant de voir justement ce qu'ils vont être capables de montrer lors du processus draft. Et si Drake Jackson, aujourd'hui, il reste considéré comme à peu près aux alentours d'une fin de premier tour à l'heure où on se parle, simplement sur la production de 2021, j'ai pas de doute à me dire qu'avec en effet un processus, tout ce qui est il est senior en plus, Drake Jackson, ou je dis une bêtise,
non, oui, puisque, oui, pour moi il est 2022 éligible, Enfin, peut-être qu'il est redshirt junior.
Peut-être qu'il est junior. Bon, en tout cas, il y aura au moins le combine et tout ce qui est pro day, pardon, etc. pour montrer ce qu'il est capable de faire. J'ai pas de mal à me dire qu'il y a plus de chances qu'il monte qu'il descende dans la hiérarchie. Là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que je veux bien. Voilà, je veux bien me dire en effet que la situation globale du programme de USC a pu jouer en sa défaveur. Maintenant, voilà, par rapport aux autres profils qu'on a abordés tout à l'heure, pour l'instant, c'est clairement pas celui dont la cote est en hausse, si on en juge sur la saison de 2021.
Ouais, t'as raison, il est junior.
T'as raison, et
il est junior, je viens de vérifier.
Oui, il est junior, oui, c'est pour ça que j'avais un gros route. Surtout qu'avec l'histoire de la saison, entre guillemets, qui
offerte,
l'année dernière, c'est un peu
ça,
voilà, histoire qu'on ne soit pas embrouillé, c'est bien. Du coup, on termine avec le sleeper, Victor. Defensive end de Texas A&M. Alors, on sait que Texas A&M est un joueur très en vue sur la ligne de défensive cette saison avec DeMarvin Leal. Alors, je t'avais soufflé le nom de Mikey Clemons, notamment le defensive end de Texas A&M. Je vais m'exprimer là-dessus un petit peu, mais déjà, j'aimerais savoir ce que toi, tu en penses. Et justement, quand on parle de sleeper, vers où tu le vois potentiellement arriver à l'heure où on se parle?
Ben moi, je pense qu'il a typiquement le profil du mec qui sera drafté. Pas très haut, mais qui sera drafté. Pourquoi? Parce que j'ai même pas envie d'appeler defensive end, j'ai envie d'appeler defensive line, parce que j'ai l'impression que toute cette ligne semble assez polyvalente, intérieur-extérieur. Parce que Léal, c'est vrai, ou Lille, je sais pas comment on prononce, mais qui est joueur hype, peut jouer à l'extérieur-intérieur. C'est aussi le cas de Clemons qui multiplie un peu les positions différentes. Mmh. Il est physique. Il défend le jeu de course. C'est un bon setter, on va dire. Par contre, c'est pas un grand pass rusher. Donc pour moi, c'est le joueur un peu, tu sais, ton defensive tackle, defensive end remplaçant, éventuellement titulaire dans quelques années s'il se développe bien, mais joueur utile. Parce que dans les premières tentatives, deuxième tentative, dès que tu as des trous ou que tu veux faire reposer des joueurs ou quoi, il fera le boulot. Il ne sera pas formidable sur moi, mais je pense qu'il fera largement le boulot. Et du coup, ces joueurs-là, polyvalents et utiles, dans une défense, tu en as toujours envie.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on est typiquement sur le genre de joueur qui va être un petit peu pénalisé par ses limites athlétiques, entre guillemets, en tout cas par rapport à d'autres. Après, c'est sûr qu'il y a un physique notamment qui lui permet d'être hyper efficace. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit tout à l'heure pour être en effet un très bon edge setter, voire potentiellement à moyen terme un potentiel defensive end numéro 2. Après, c'est sûr que voilà, il y a quelques limites sur le pass rush en termes de move et vraiment d'explosivité régulière, j'entends. Et c'est vrai que voilà, ça restera un joueur extrêmement complet et voilà, qui fera peut-être rien de plus, mais je pense que ouais, quatrième, cinquième tour, il y a moyen de s'en frotter les mains un petit peu, de récupérer ce genre de joueur. Peut-être plus cinquième que quatrième, alors on se parle.
Ouais, cinquième, c'est bien. Profonde, ouais.
Donc voilà, à surveiller. Voilà. Il y aura plein d'autres noms qu'on aura sûrement à cœur qu'on aura à cœur d'évoquer d'ici le mois d'avril, parce qu'encore une fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de profils. On attendra d'ici un ou deux mois aussi pour peut-être l'écrémage un petit peu des joueurs inscrits, puisqu'on rappelle que c'est d'ici un mois et demi, deux mois qu'on saura concrètement qui franchit le pas pour la NFL. Et voilà, en fonction de ça, on saura un petit peu à quel niveau, combien de pass rushers en tout cas on peut avoir dans le premier, voire dans les deux, trois premiers tours en avril prochain. Je te remercie en tout cas, Victor, d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast.
Merci à toi.
Et puis, on se retrouve pour l'émission podcast la semaine prochaine. Alors, j'ai un trou de mémoire. C'est le receveur la semaine prochaine? J'ai un doute.
Je ne sais plus.
J'avoue que je n'ai pas regardé et c'est une honte de ma part.
Surtout que c'est toi qui y es avec Jean-Mi.
C'est moi qui y suis avec Jean-Mi, tout à fait. Ouais.
Donc, je ne suis pas là pendant deux semaines.
Donc j'ai intérêt à potasser ça avec attention. Mais donc ce sera en tout cas l'attaque. Il me semble que c'est le receveur, mais en tout cas à confirmer. D'ici là, passez en tout cas une très bonne semaine. Et puis, vous retrouvez bien entendu les podcasts habituels de la galaxie, je persiste, Touchdown Actu, avec notamment le débrief qui arrive ce mardi pour revenir sur la 12e semaine de saison régulière. Très bonne journée à tous et à très vite. Ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.